Chapitre 26. Journal du docteur Seward. 29 octobre. J'écris ceci dans le train entre Varna et Galatz. Hier soir, nous nous sommes réunis peu avant le coucher du soleil. Chacun de nous a de son mieux accompli sa tâche. Si la réflexion, l'audace, l'occasion nous servent, nous sommes prêts. Et pour le voyage qui doit nous mener jusqu'au château même de Dracula, et pour la tâche qui nous attend à Galatz. À l'heure habituelle, Mrs. Harker se prépara à son effort hypnotique. Van Helsing mit plus de temps et eut plus de peine cette fois à la faire entrer en transe. Elle se met généralement à parler dès le premier signe, mais le professeur dut l'interroger et de la façon la plus précise avant d'apprendre quoi que ce fût. La réponse vint enfin. Je ne distingue rien. Nous sommes immobiles. Il n'y a pas de clapotis. Mais un remous continuel et doux de l'eau contre la mare. J'entends des voix d'hommes qui appellent. De près. De loin. Ainsi que le glissement, le grincement des rames sur l'étolé. On tire quelque part un coup de feu. L'écho semble venir de très loin. Des pas résonnent sur ma tête. On traîne des cordes, des chaînes. Qu'est-ce donc? Voilà un rayon de lumière. Je sens sur moi un souffle de vent. Elle n'en dit pas plus. Elle s'était redressée comme si on la poussait du sofa où elle était étendue et levait les deux mains, les paumes tournées vers le haut comme pour soutenir un fardeau. Van Helsing et moi, nous nous regardâmes, car nous comprenions. Quincy levait légèrement les sourcils en la regardant fixement, tandis que la main de Harker se crispait instinctivement sur la poignée de son cucri. Il y eut une longue pause. Nous savions tous que le temps s'écoulait, où elle aurait pu nous parler, mais nous sentions qu'il était inutile de dire quoi que ce fût. Elle se leva brusquement, ouvrit les yeux et demanda doucement « Aucun de vous ne veut une tasse de thé ?» Vous devez être si fatigué. » Nous ne pouvions que lui faire plaisir et nous acceptâmes. Elle s'affaira pour se procurer du thé. Van Helsing dit quand elle fut sortie « Mes amis, vous avez compris. Il est près d'une côte. Il a quitté son coffre de terre, mais il lui faut gagner le rivage. Pendant la nuit, il peut se cacher n'importe où, mais s'il n'est pas transporté à la côte ou si le bateau ne la touche pas, il ne pourra pas l'atteindre. » Dans une telle circonstance, il peut la nuit changer de forme, sauter ou voler vers le rivage comme il l'a fait à Whitby, mais si le jour vient avant qu'il ait accosté, il n'échappera que s'il est transporté, et s'il l'est, les douaniers peuvent découvrir ce que contient la caisse. En conclusion, s'il n'arrive pas à gagner la terre cette nuit ou avant l'aube, un jour entier est perdu pour lui, et nous pouvons alors arriver à temps. Car s'il ne s'échappe pas pendant la nuit, nous l'approcherons en plein jour, enfermé dans son coffre et à notre merci. Il n'ose pas se révéler sous sa nature véritable, éveillé, visible, de peur d'être découvert. Il n'y avait rien à ajouter. Nous attendîmes donc patiemment jusqu'à l'aube, le moment où Mrs. Harker pourrait nous apprendre quelque chose. À la pointe du jour, nous nous apprêtions à écouter, le souffle coupé par l'anxiété, ce qu'elle répondrait au cours de la transe. L'hypnose fut encore plus longue à s'établir que précédemment, et lorsqu'elle se produisit, si peu de minutes nous séparaient du plein lever du soleil que le désespoir nous prit. Van Helsing mettait toute son âme dans son effort. Elle répondit enfin, obéissant à sa volonté, « Tout est obscur. J'entends le clapotis de l'eau à mon niveau et du bois qui craque sur du bois. » Elle n'en dit pas plus, et un soleil rouge apparut. Il nous faut attendre jusqu'à ce soir. Et c'est ainsi que nous avançons vers Galatz, dans une attente angoissée. Nous devons y arriver entre 2 et 3 heures du matin, mais depuis Bucarest, nous avons 3 heures de retard, de sorte que nous n'arriverons sans doute que bien après le lever du soleil. 2 messages hypnotiques de Mrs. Harker pourraient donc encore nous parvenir. L'un d'eux, tous les deux peut-être, peuvent jeter quelques lumières sur les événements. Plus tard, Encore un coucher de soleil qui, heureusement, est survenu en un moment où rien ne nous distrayait. S'il avait coïncidé avec un arrêt dans une gare, nous n'aurions pu nous assurer le calme et la solitude nécessaires. Mrs. Harker était encore moins disposée que le matin à se soumettre à l'hypnose. Je crains de voir son don de déchiffrer les sensations du conte disparaître juste au moment où nous en avons le plus besoin. Jusqu'à présent, elle s'est bornée au cours de la transe aux faits les plus simples, ce qui, en se prolongeant, pourrait finalement nous induire en erreur. Si je pouvais penser que le pouvoir du conte sur elle décline en même temps que son don de voyance, j'en serais heureux. Mais je doute que ce soit le cas. Lorsqu'elle parla enfin, ce fut en ces termes énigmatiques. Quelque chose disparaît. Je sens passer sur moi comme un vent glacial. J'entends au loin des bruits confus. On dirait des hommes qui parlent une langue étrangère, une cascade furieuse et des loups qui hurlent. Elle s'arrêta, secouée par un frisson qui s'accrut pendant quelques secondes jusqu'à ce qu'enfin elle trembla comme frappée de paralysie. Elle ne répondit plus aux questions impérieuses du professeur. Au réveil, elle était glacée, épuisée, prostrée, mais maîtresse de son esprit. Elle ne se rappelait rien, mais elle voulut savoir ce qu'elle avait dit. Lorsqu'elle l'apprit, elle y réfléchit profondément, longtemps et en silence. 30 octobre, 7 heures du matin. Nous approchons à présent de Galatz, et plus tard je manquerai peut-être de temps pour écrire. Nous avons tous guetté ce matin l'arrivée de l'aube. Sachant qu'il lui est chaque jour plus difficile d'obtenir l'hypnose, Van Helsing commença ses passes plus tôt que d'habitude, sans résultat toutefois, jusqu'au moment normal où elle céda, avec une peine croissante, une minute avant l'apparition du soleil. Sans perdre de temps, le professeur lui posa des questions auxquelles elle répondit avec une égale promptitude. « Tout est noir, j'entends le remous de l'eau au niveau de mon oreille et du bois qui craque sur du bois, plus bas, du bétail, loin. Il y a aussi un autre bruit bizarre, on dirait... » Elle s'interrompit très pâle et pâlissant de plus en plus. « la suite, parlez, je vous l'ordonne !» s'écria Van Helsing d'une voix déchirante, et son regard était désespéré car le soleil, le vent, teintait de rouge jusqu'au pâle visage de Mrs. Harker. Elle ouvrit les yeux et nous tressaillîmes quand elle dit doucement et d'un air extrêmement inquiet « Professeur, pourquoi demander de moi ce que vous savez m'être impossible ? Je ne me rappelle rien. » Puis, voyant l'étonnement sur nos visages, elle reprit « Qu'ai-je dit ? Qu'ai-je fait ? Je ne sais rien, sinon que j'étais couché là, demi-endormi, et que je vous entendais dire « La suite, parlez, je vous l'ordonne. » C'était si étrange de vous entendre me commander comme si j'étais un enfant coupable. « Mais Madame Mina, » répondit-il tristement, « c'est une preuve, si tant est qu'il en faille une, de l'amitié et du respect que j'ai pour vous. En effet, un mot dit pour votre bien, prononcé plus sérieusement que jamais, paraîtra nécessairement étrange du seul fait qu'il exprime un ordre adressé à celle à qui je suis fier d'obéir. » Coup de sifflet. Nous approchons de Galatz. Nous sommes sur des braises à force d'anxiété et d'impatience.
Journal de Mina Harker, 30 octobre. Mr. Morris m'a emmené à l'hôtel où nos chambres avaient été retenues par télégramme. Il est celui dont on peut le mieux se passer, étant donné qu'il ne parle aucune langue étrangère. Les forces furent distribuées, comme à Varna, à ceci près que ce fut Lord Godalming qui se rendit chez le vice-consul, son rang pouvant servir de garantie auprès d'un personnage officiel dans l'extrême urgence où nous sommes. Jonathan et les deux médecins s'enfuirent à l'agence maritime pour avoir quelques nouvelles au sujet du tsarine Catherine. Plus tard. Lord Godalming est de retour. Le consul est absent. Le vice-consul est malade. Les affaires courantes sont expédiées par un employé qui s'est montré très bien disposé, offrant de faire tout ce qui est en son pouvoir.
Journal de Jonathan Harker, 30 octobre. À 9h, le docteur Van Helsing, le docteur Seward et moi-même sommes allés chez Mackenzie and Steinkopf, agent de la firme Hapgood de Londres. En réponse à une demande de Lord Godalming, ils avaient reçu un télégramme de Londres les invitant à nous témoigner toute la déférence possible. Ils furent plus que courtois, plus qu'obligeants, et nous emmenèrent séance tenante à bord du Tsarine Catherine qui était à l'ancre dans le port fluvial. Nous vîmes le capitaine, un nommé Donaldson, qui nous raconta son voyage. Il nous dit que de toute sa vie, il n'avait eu meilleure traversée. « Voilà, dit-il, ça nous a même effrayés. » Car nous nous attendions à devoir payer ça par un sale coup de malchance afin de revenir à une juste moyenne. Ce n'est pas prudent de naviguer de Londres à la mer Noire avec le vent en poupe, comme si le diable en personne vous soufflait dans les voiles pour ses fins personnelles. Et avec ça, pas moyen de voir, rien du tout. Chaque fois que nous approchions d'un navire, ou d'un port, ou d'un cap, un brouillard épais, un brouillard nous tombait dessus et voyageait avec nous, et quand il se levait et que nous pouvions découvrir le pays, il n'y avait plus qu'un damné vide. Nous avons passé Gibraltar sans pouvoir nous signaler, et quand nous sommes arrivés aux Dardanelles, où nous devions attendre une autorisation de passer, nous n'avons jamais été à portée d'être arrêtés. J'ai d'abord pensé à diminuer la pression et à louvoyer jusqu'à ce que le brouillard ait disparu, mais après tout, j'ai réfléchi que si le diable s'était mis en tête de nous amener en mer Noire dans un temps record, il le ferait, que nous le voulions ou non. Et une traversée rapide, ce n'était pas pour nous desservir auprès de la compagnie, ni pour gêner nos affaires. Et le vieux Satan qui aurait accompli ses fins personnelles nous saurait gré de ne pas l'avoir contrecarré. Ce mélange de bonhomie et de roublardise, de superstition et d'astuce commerciale excita Van Helsing qui dit « Mon ami, le diable est plus malin que certains ne le pensent et il sait à qui il parle ». Le compliment ne déplut pas à l'autre qui poursuivit. Après le Bosphore, les hommes ont commencé à ronchonner. Les Roumains vinrent me trouver pour me demander d'envoyer par-dessus bord une grande caisse qui avait été chargée par un drôle de vieil homme juste au moment où nous quittions Londres. Et je les avais vus, hurluquait le gars, et levait deux doigts à son approche pour se garder du mauvais œil. Les superstitions des étrangers, ce qu'elles peuvent être ridicules. Je les ai renvoyés à leur boulot en deux temps trois mouvements. Mais tout juste après, un coup de brouillard nous tombe dessus et je me demande s'il n'y avait pas quelque chose de vrai dans ce qu'il disait. Quoique, je n'ai rien contre la grande caisse. Bon, on avance, et comme le brouillard ne cesse pas de 5 jours, je laisse le vent nous porter. Car si le diable voulait arriver quelque part, eh bien, il n'y avait qu'à le laisser faire. Et s'il ne le voulait pas, de toute façon, nous garderions un œil attentif. Eh bien, nous avons eu bonne route et eau profonde, tout le temps. Et avant-hier, quand le soleil levant a percé le brouillard, nous nous sommes retrouvés sur le fleuve, juste en face de Galatz. Les Roumains étaient furieux et voulaient ni cric ni crac que je lance la caisse dans l'eau. Mais j'ai dû discuter avec eux à coups d'inspect. Et quand le dernier a débarrassé le plancher en se tenant la tête à deux mains, je les avais persuadés que, mauvais œil ou pas mauvais œil, les biens et la confiance de mes employeurs étaient mieux à leur place dans mes mains qu'au fond du Danube. Remarquez qu'ils avaient amené la caisse sur le pont, tout prêt à l'expédier, et qu'elle portait l'indication « Galatz par Varna ». Je voulais la laisser là, jusqu'après le déchargement dans le port, pour m'en débarrasser tout à coup. Nous n'avons pas beaucoup déblayé ce jour-là, et nous avons dû rester toute une nuit à l'ancre. Mais au petit matin, une heure avant le lever du soleil, un homme est venu à bord avec une procuration, envoyée d'Angleterre, pour recevoir une caisse adressée au comte Dracula. Sûr que l'affaire le concernait, ce papier était en règle. J'étais content de me débarrasser de cette damnée chose, car je commençais moi-même à ne plus me sentir tranquille. Si le diable a embarqué du bagage dans mon bateau, c'est ça et rien d'autre. « Comment s'appelle celui qui en a pris livraison ?» demanda Van Helsing, dominant son impatience. « Je vous le dis tout de suite. » Et descendant dans sa cabine, il en ramena un reçu signé « Emmanuel Hildensheim, Burgenstrasse, 16. » Nous ne pûmes rien tirer de plus du capitaine, et nous le quittâmes en le remerciant. Nous avons trouvé Hildensheim à son bureau, un juif avec une trogne de mouton et un fez. Son exposé fut ponctué d'espèces trébuchantes. Ses virgules étant apportées par nous et avec quelques profits pour lui, il nous dit ce qu'il savait et qui se révéla peu compliqué mais capital. Il avait reçu une lettre de Mr. Deville de Londres le priant de prendre réception si possible avant le lever du soleil afin d'éviter la douane, d'une caisse qui arriverait à Galatz sur le Tsarine Catherine. Il devait la donner en charge à un certain Petrov Skinski, qui était en relation avec des Slovaques, lesquels trafiquaient sur le fleuve et jusqu'au port. Il avait reçu pour sa peine un billet anglais dont la Banque internationale du Danube lui avait donné aussitôt la contre-valeur en or. Il avait conduit Skinski au bateau et lui avait remis la caisse afin d'éviter des frais de factage. Il n'en savait pas plus. Nous voilà en quête de Skinski, mais sans parvenir à le trouver. Un de ses voisins, qui ne semble pas le porter dans son cœur, déclare qu'il est parti avant-hier, mais on ne sait tout. Nouvelle confirmée par son logeur, à qui un messager a remis la clé de la maison et le prix du loyer en monnaie anglaise. Cela s'est passé entre 10 et 11 heures, la nuit dernière. Nous nous retrouvons à un point mort. Tandis que nous bavardons, arrive en courant, hors d'haleine, quelqu'un qui crie que le corps de Skinski a été découvert à l'intérieur du cimetière de Saint-Pierre, la gorge ouverte comme par un animal sauvage. Nos interlocuteurs s'élancent pour aller voir ce spectacle d'horreur, tandis que les femmes s'écrient « C'est un Slovaque qui a fait ça !» Nous nous dérobons de peur d'être impliqués dans l'affaire et retardés. De retour à l'hôtel, nous étions incapables d'arriver à aucune conclusion précise. Nous sommes tous convaincus que le coffre poursuit son chemin par eau, mais vers où? C'est ce qu'il nous reste à découvrir. C'est le cœur lourd que nous avons retrouvé Mina. Une fois réunis, nous nous sommes demandé s'il fallait lui communiquer les dernières nouvelles. Comme tout semble désespéré, c'est notre dernière chance, si précaire qu'elle soit.
Journal de Mina Harker, 30 octobre, au soir. Ils étaient si fatigués, si recrus, si découragés qu'il n'y avait rien à faire avant qu'ils n'eussent pris un peu de repos. Je les ai donc priés d'aller s'étendre une demi-heure en me laissant consigner tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Quelle reconnaissance j'éprouve envers l'homme qui a inventé la machine à écrire transportable et envers Mr. Morris qui m'a procuré celle-ci. J'aurais perdu le fil de mes idées si j'avais dû me servir d'une plume. Tout est fini. Pauvre, cher, très cher Jonathan, que n'a-t-il pas souffert? Que ne doit-il souffrir à présent? Il est couché sur le sofa, respirant à peine. Son corps est comme paralysé. Ses sourcils sont froncés. Son visage est contracté par la souffrance. Pauvre chéri. Il réfléchit peut-être. Sa figure m'apparaît toute ridée par son effort de concentration. Que je voudrais pouvoir lui être de quelque secours. Je ferai ce que je pourrai. À ma demande, le docteur Van Helsing m'a remis toutes les notes dont je n'avais pas encore pris connaissance. Pendant qu'il se repose, je veux les lire attentivement et peut-être arriver ici à quelques conclusions. J'essayerai de suivre l'exemple du professeur et de réfléchir sur les faits qui sont devant moi sans aucun préjugé. Je crois, avec l'aide de Dieu, avoir fait une découverte. Il me faut des cartes que j'examinerai soigneusement. Oui, je suis de plus en plus sûre que je ne me trompe pas. Ma nouvelle solution est prête. Je vais réunir mes amis et la leur dire. Ils en jugeront, soyons précises. Chaque minute est précieuse. Aide-mémoire de Mina Harker, insérée dans son journal. Point de départ pour l'enquête. Le problème, pour le comte Dracula, est de revenir chez lui. Petit A. Il doit y être transporté par quelqu'un. Cela est évident, car s'il avait le pouvoir de se déplacer à son gré, il pourrait le faire sous la forme d'un homme, ou d'un loup, ou d'une chauve-souris, ou autrement. Il redoute évidemment d'être découvert ou gêné dans l'état vulnérable où il se trouve, enfermé dans son coffre entre le lever et le coucher du soleil. Petit B. Comment peut-il être transporté? Procédons par élimination successive. 1. Par la route. Cela comporte d'infinies difficultés, surtout pour sortir des villes. Petit A. Il y a les gens. Les gens sont curieux et cherchent à savoir. Un signe, un soupçon, un doute concernant le contenu du coffre et le voilà perdu. Petit B, il y a ou il peut y avoir des employés de la douane et de l'octroi à affronter. petit c. Ses poursuivants peuvent être sur ses traces. C'est là sa crainte majeure, et c'est pour éviter de se trahir qu'il a écarté, dans la mesure où il l'a pu, même sa victime, moi. 2. Parchemin de fer. Là, personne pour veiller sur le coffre, qui risque d'être retardé, et tout retard serait fatal, avec des ennemis sur ses traces. Assurément, il pourrait échapper pendant la nuit, mais que deviendrait-il s'il était laissé dans un endroit inconnu, sans refuge où il puisse se dérober? Telle n'est pas son intention, et ce n'est pas non plus un risque qu'il puisse accepter de courir. 3. Par eau. C'est le moyen le plus sûr sous un rapport et le plus dangereux sous un autre. Sur l'eau, il est sans pouvoir, excepté pendant la nuit. Et même alors, il ne peut faire surgir que du brouillard, des tempêtes, de la neige et ses loups. Et s'il y avait un naufrage, les eaux vivantes l'engloutiraient sans qu'il puisse rien faire et il serait perdu. Il pourrait amener le vaisseau sur la côte, mais si le pays lui était hostile et qu'il ne fût pas libre de s'y mouvoir, sa position, encore une fois, serait désespérée. S'il est sur un bateau, il nous faut à présent déterminer sur quelle eau ce bateau navigue. Notre premier objectif doit être de préciser ce qu'il a fait jusqu'à présent. Cela nous éclairera sur ce qu'il lui reste à faire. D'abord, considérons ses actes à Londres comme une partie de son plan d'ensemble, quand chaque minute comptait pour lui et qu'il devait tirer parti de tout. Ensuite, des faits que nous connaissons, essayons de déduire ce qu'il a fait ici. Pour commencer, il a évidemment voulu arriver à Galatz. L'ordre concernant Varna était pour nous dérouter. Si nous apprenions qu'il avait quitté l'Angleterre et cherchions à savoir pour quelle destination. Son but unique, immédiat, était de nous échapper. La preuve en est l'instruction incluse dans la lettre à Emmanuel Hildesheim de dégager la caisse et de l'enlever avant le lever du soleil. Et aussi l'ordre donné à Petrov Skinski. Là, nous ne pouvons que deviner. Une lettre ou un message doit avoir existé, puisque Skinski est allé de lui-même trouver Hildesheim. Jusque-là, ses plans ont réussi, nous le savons. Le tsarine Catherine a fait un voyage prodigieusement rapide, à tel point que le capitaine Donelson en a conçu des soupçons. Mais sa superstition jointe à sa roublardise ont fait le jeu du comte. Il a couru, vent en poupe, à travers le brouillard et le reste, et il est arrivé à l'aveuglette à Galatz. Les dispositions du comte se sont prouvées efficaces. Hildesheim dégagea le coffre, l'emporta et le transmit à Skinski. Skinski s'en chargea et nous perdons ici la piste. S'il y avait une douane ou un octroi, on les a évités. Maintenant, demandons-nous ce que le comte a fait après son arrivée à terre à Galatz. La caisse a été remise à Skinski avant l'aube. Au lever du soleil, le comte pouvait apparaître sous sa forme véritable. Demandons-nous pourquoi Skinski fut choisi comme auxiliaire. D'après le journal de mon mari, Skinski est en relation avec les Slovaques, qui trafiquent sur le fleuve en amont du port. Et la remarque que le meurtre est l'œuvre d'un Slovaque prouve ce que l'on pense généralement de ces gens. Le comte voulait qu'on ne l'approchât point. Voici ma conjecture. Le comte décida, à Londres, de rentrer dans son château par eau, cette voie étant la plus sûre et la plus secrète. Les Tziganes l'en avaient fait sortir et l'avaient probablement donné en charge à des Slovaques qui avaient amené les caisses à Varna, d'où elles avaient été embarquées pour Londres. Le comte connaissait ainsi les personnes capables de lui organiser ce service. Lorsque le coffre fut à terre, il en sortit avant le lever ou après le coucher du soleil et donna ses instructions à Skinski pour que le changement fût assuré d'une rivière à l'autre. Cela fait, et sûr que tout allait bien, il crut effacer ses traces en assassinant son agent. Après avoir examiné la carte, je conclus que la rivière la plus commode à remonter pour les Slovaques est ou bien le Prout, ou bien le Séret. Je vois dans les notes qu'au cours de ma transe, j'ai entendu des vaches meugler, de l'eau tourbillonner au niveau de mes oreilles et du bois craquer. Le comte, dans son coffre, était alors sur une rivière, dans une barque non pontée, propulsée probablement à la rame ou à la perche, car il y a des hauts fonds et il faut aller contre le courant. Le bruit serait différent si on le descendait. Naturellement, ce n'est peut-être ni le Séret ni le Prout, mais nous pouvons arriver à le savoir. De ces deux rivières, toutefois, c'est sur le Prout que la navigation est la plus aisée. Mais le Séret, à Fundu, reçoit la Bistritsa, qui coule autour du col de Borgo. La boucle qu'elle y fait est le point le plus rapproché du château de Dracula que l'on puisse atteindre par eau.